rentrée, le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes, comme tous les lundis à 18h30. Et notre but, c'est toujours le même, malgré le froid, la pluie, le vent, tout ce que vous voulez, c'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Alors aujourd'hui, on aurait pu être sur Rire et Chansons, puisque nous aurons surtout de l'humour et de la musique. Mais alors, quelle musique? Pas n'importe laquelle. Et comme toujours depuis le 7 octobre, je voudrais commencer par un conte. Voilà, c'est un conte, une blague. Et je vous dirai le nom de mes invités après, on verra si vous les reconnaissez. Certains ont des voix quand même très reconnaissables. Alors, je vais commencer. C'est toujours tiré de Contes juifs de Francis Weil, mais c'est un peu long, donc il y a des parties que je vais un peu vous raconter comme ça. Donc, celui-ci s'appelle « Riose un peu ». Donc, c'est l'histoire de David, qui est juif, mais qui n'est pas spécialement religieux. Et il part en vacances, justement le lendemain de Pessah, donc de Pâques, au Brésil. Et qu'est-ce qu'on visite quand on est au Brésil? Ben, on monte sur le pain de sucre. Alors, il monte sur le pain de sucre et il y a plein de touristes du monde entier. C'est vraiment génial. Mais qu'est-ce qu'il voit? Un groupe de barbus. Et puis, quand il s'approche, il voit qu'ils ont des Streimel et puis il voit qu'ils sont ensemble. Et puis, évidemment, c'est une communauté religieuse israélienne, mais avec des gens du monde entier. Donc, il les aborde et justement, il y en a un qui parle français. Alors, il lui dit « Ah, mais bonjour, vous venez passer Pessah au Brésil ?» Il lui dit « Oui, oui, vous avez un bon céder ?»« Oui, oui, oui. » Et donc, maintenant, vous visitez le pain de sucre. Le quoi ?»« Ben, le pain de sucre. » Alors, vous le savez ou pas, mais donc à Pâques, ce qui est très spécial chez nous, c'est qu'on ne peut pas manger de pain levé. Donc, c'est pour ça qu'on mange des matzot, donc les pains tout plats. Et donc, pas de pain, interdit le pain. Donc, gros problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à Pessah, on peut monter sur le pain de sucre? En tout cas, dans le doute, le rabbi principal fait courir tout le monde sur la plateforme du téléphérique qui se trouve à un certain nombre de mètres au-dessus de la terre. Et on attend la décision. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Je fis de la monnaie et investis une cabine téléphonique pour chercher des secours. J'appelais d'abord la...
Et alors, une yeshiva, c'est une école religieuse juive.
Corcovado. J'ai eu de la chance. Le rabbin de garde parlait l'anglais. Il m'expliqua qu'il était seul et que dans ces conditions, tant que la vie de quelqu'un n'était pas en danger immédiat, il ne pouvait quitter son poste. Mais il disposait de couvertures certifiées, libres de tout.
Chametz. Alors le chametz, c'est ce qu'on chasse, qu'on nettoie avant Pâques, parce que voilà, c'est toujours cette histoire de pain levé, de miettes même, qu'on ne peut pas avoir à la maison.
Je pouvais venir les chercher. J'ai descendu en hâte, les fis transporter à la gare du petit train, où on m'a promis de les faire monter immédiatement, ce qui au Brésil ne veut pas dire grand-chose. Puis, j'allais dans un café internet expédier des mails aux plus hautes autorités décisionnaires. Voici mon message. Prière faire savoir si effectivement pain de sucre...
Donc, c'est chametz, Guia. Est-ce que c'est du chametz ou pas?
Auquel cas, envoyez urgence instruction. Une première réponse m'est parvenue en moins d'une heure.
Bureau du grand rabbin Davidson, Stockholm. Grand rabbin, congé de paternité quintuplé. Réponse des retours, shalom. Maison Blanche, bureau de Ben Oklamovitz, rabbin privé du président Bush. Appliquez strictement résolution 242 et la suite. Gloire à l'Éternel, Dieu des armées, vive Sharon. Yeshiva du Rav Hadosh de Mnebrak. Prière, distinguer l'essentiel de l'accessoire. Dans pain de sucre, y a-t-il en volume, en pain, plus qu'une olive, plus qu'un œuf, plus qu'une poignée de figues, ou moins, si moins, qu'un œuf appliqué, le principe des mélanges. Si plus attendre, la mimouna, la fin de la fête de Pâques, PS, l'œuf a-t-il été pondu avant ou après Pessah? Selon le cas, consultez Michano, traité de Betchal. Le grand rabbin d'une grande ville de l'Est de la France écrivait: je suis sûr que ce problème est traité en détail dans Péchaïm, je crois, 37B. Malheureusement, j'ai cassé mes lunettes. Opticien fermé pendant les fêtes. Je répondrai plus tard. Le message suivant était expédié par la yeshiva d'Aix-les-Bains. Prière, préciser si pain levé ou pas. Je répondis, levé à 148 mètres d'altitude. Un autre message provenait de la fabrique Neyman de Chaverne. Envoie immédiatement pour naufragés 200 kilos mazot, premier choix. Le Conseil de sécurité de l'ONU se préparait apparemment à délibérer. Il envoyait un projet de résolution rédigé par le Quai d'Orsay. L'entité sioniste doit évacuer toutes les colonies, y compris au Brésil.
Voilà, ça se passe vraiment comme ça. Hein. Donc, dès qu'on soumet un problème, chaque rabbin, ah, oui, mais d'un côté, oui, et de l'autre côté, c'est vraiment comme ça. Bon, ben voilà, avec toutes ces réponses, donc David va retrouver en haut du Corcovado son équipe de rabbins. Mais malheureusement, il ne les voit pas. Et puis, il se rend compte qu'ils sont à la gare. Donc, il se dépêche, il arrive vers la gare et voilà ce qui se passe.
Ah, c'est moi. Alors, je leur criais, mais que faites-vous? Qu'avez-vous fait? Ils répondirent, malheur à celui qui est sage à ses propres yeux. Mais le pain, Pessar, et alors? Lancèrent-ils en cœur. Quel pain? Me dit le Ravenne, me regardant dans les yeux. Bah, le pain de sucre, bien sûr. Pain de sucre, connais pas. Ah, vous voulez dire le sugarloaf? Nom de nom, mais c'est évidemment le nom de notre montagne en anglais, miche de sucre, pain. Pas de pain là-dedans. Et le rave me dit, vous ne parlez pas l'anglais? Je dis, si, bien sûr, indeed. Et il reprit, nice view there, isn't it? Ils se mirent en marche, l'un derrière l'autre, et me jetant l'un après l'autre un regard moqueur.
Voilà, donc on peut toujours trouver une solution qui arrange tout le monde. Oui. Donc c'était pas le pain, c'était la miche de sucre. Donc c'est bon comme ça. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu certaines voix. Peut-être que la plus reconnaissable c'est Zidani. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors même si vous changez votre voix dans chaque personnage, on reconnaît quand même un petit fond. Enfin moi j'aurais reconnu. Bravo.
Elle avait beaucoup de mots compliqués à dire en plus. Hein.
Oui,
c'était très technique.
C'était pas évident.
Non, mais bon, voilà. Elle a fait le tour du monde entre tous les rabbins et toutes les réponses. Ouais. Mais ça se passe vraiment comme ça. Hein.
Je me doute.
Voilà. Alors, Dominique Corbiot, deuxième voix que vous auriez pu reconnaître parce qu'il est déjà venu plusieurs fois.
Il a la voix parlée puis la voix chantée.
Voilà,
pas tout
c'est
à fait
ça.
La même.
La prochaine fois, je te donne un morceau à chanter.
Ah, ok.
Mais je vais me préparer à l'avance. Voilà, et peut-être celle que vous connaissez le moins. Pourtant, elle est déjà venue nous rendre visite. C'est Maria Grazia Tenese. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, grande
bonsoir
organisatrice que je ne sais pas comment, quel est le titre officiel, mais en tout cas, grande organisatrice de très, très nombreux concerts classiques.
Oui.
Que ce soit
à Bruxelles.
Donc,
il y a plusieurs. Je suis présidente d'une association sans but lucratif qui s'appelle MG Concerts. Et j'organise donc des concerts à la maison, mais j'organise aussi en coopération avec Christophe Delporte, qui est directeur artistique du CPF Festival, une série de concerts au MIM, au Musée des Instruments de Musique.
Voilà, alors on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, vous êtes une personnalité, hein, Dominique, très connue dans
absolument
le monde des concerts.
Une grande amoureuse de la musique, ouais, et amoureuse des musiciens, des artistes, et, voilà, et qui soutient beaucoup tout ça à Bruxelles, vraiment.
Voilà, et on va commencer par de la musique, et on a normalement en ligne, j'espère. Allô? Allô?
Et allô?
Ah, voilà.
Non, c'est Zidani qui a fait. Mais je peux peut-être, le temps de connecter, je peux peut-être commencer déjà à faire mon petit laïus d'introduction.
Alors,
comme
qui,
ça, le
qui
temps
on
que
va
ça
avoir en ligne?
Alors, on aura en ligne Judith Windvogel, parce que du 7 au 10 novembre sera donné au Théâtre Royal de la Monnaie le grand opéra romantique et patriotique La Muette de Portici, du compositeur français Daniel François Esprit Aubert. Il y a beaucoup de prénoms. Mais ce sera proposé ici dans une version chambriste par la compagnie Valpurgis, justement, qui a été fondée par Judith Windvogel qui sera avec nous, qui elle-même est chanteuse lyrique qui crée en parallèle de sa carrière de chanteuse des spectacles. Et donc ici c'est un opéra qui est célèbre sans l'être, c'est un opéra qui est très attaché à la Belgique. Je vous expliquerai pourquoi. Et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un des seuls opéras, peut-être même le seul, dont le rôle titre ne chante pas, puisque elle est muette, hein, ça paraît logique. Et donc elle était interprétée par une danseuse danseuse, puisqu'à ce moment-là, le ballet pantomime, qui était un mélange entre danse, théâtre et mime, était très en vogue. Le livret s'inspire de faits historiques, à savoir la révolte en 1647 du jeune pêcheur napolitain Masaniello contre les Espagnols, qui gouvernaient alors Naples par l'intermédiaire du vice-roi. Et dans l'opéra, notre fameuse muette est la sœur du pêcheur Masaniello. Elle se nomme Fenella et elle a été séduite, puis abandonnée, comme souvent à l'opéra, par le méchant fils du vice-roi. Et c'est ce déshonneur qui va conduire au soulèvement du peuple napolitain au départ de Portici, donc ce petit port de pêche près de Naples. L'opéra est créé en 1828 à Paris. Il va connaître un très grand succès, si bien que le 25 août 1830, il est donné à Bruxelles, à la Monnaie, pour célébrer l'anniversaire du roi Guillaume Ier des Pays-Bas. Et puis pendant la représentation, le caractère patriotique et le côté appel à la liberté de l'œuvre va faire éclater des troubles, notamment pendant le fameux duo Amour sacré de la patrie. Et donc c'est des troubles qui conduiront quelques semaines plus tard à la Révolution et à l'indépendance de la Belgique. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Ça, et j'espère que Judith est avec nous.
Allô?
Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Oui, bonjour Judith. Merci d'être là.
Bonjour.
Je viens de faire un petit topo là pour un peu introduire l'œuvre. J'avais quelques questions à vous poser. Tout d'abord, les livrets d'opéra, il semble être une source d'inspiration très importante dans la conception de vos spectacles. D'où vient cette envie de travailler sur ces textes et pourquoi ce choix de la muette de Portici?
Oui, ça fait déjà 14 fois que je fais comme ça une lecture de livret d'un opéra. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment si on va à l'opéra, souvent on se laisse séduire par la musique et on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, quoi. Et ce que j'aime bien faire, c'est de dissocier la musique du texte pour qu'on vraiment comprenne ce qui se passe. Et je travaille alors avec des comédiens et des chanteurs et aussi avec des musiciens pour explorer le livret et comment ce livret peut parler à nous aujourd'hui. Pourquoi la muette de Portici, c'était un peu par hasard, quoi. C'est bientôt de nouveau 200 ans.
Une commémoration.
Voilà la coronation. Donc, mais je prends juste presque. C'est pas que j'ai un choix, que j'ai choisi ça vraiment volontairement. C'est un peu comme on va dans la bibliothèque, on prend une partition et on voit ce que c'est. Voilà. C'est ça, c'est un peu comme le sort qui décide, quoi.
Et donc vous disiez donc ce sera une version chambriste, vous en parliez, c'est avec quelques comédiens, deux chanteurs, une soprano, un ténor, puis c'est accompagné uniquement avec un accordéon et une trompette. Et qu'avez-vous eu envie de retenir théâtralement et musicalement dans cette œuvre, et comment aussi on relève le défi de condenser comme ça une œuvre de cette envergure?
Ce que moi je retiens beaucoup de cet opéra, c'est que, parce que tout le monde connaît bien sûr cet opéra du duo Amour sacré de la patrie, mais pour moi ce qui est plus important est en fait ce qui se passe après cet duo. Donc l'amour sacré de la patrie, c'est le début de la révolte, en fait. C'est le début de la révolte des Napolitains, comme vous venez d'expliquer là. Mais en fait, au début de la quatrième acte, Masaniello se trouve seul et il parle à Dieu et lui dit que pour lui, il est insupportable de ne pas avoir pu réprimer la colère aveugle et la soif de vengeance de son peuple. Et donc, il souffre du fait qu'il n'a pas pu empêcher...
Il aurait préféré la paix à la révolte, en fait.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça a dégénéré complètement en un bain de sang, un massacre. Et alors, il demande à Dieu... il faut vraiment adoucir adoucir les cœurs de mon peuple.
C'est un message qui par les temps qui courent, et fait écho dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations. Donc, rien que pour ça, le choix était très judicieux, même si ce n'était pas conscient. Ça tombe très, très bien. Et le travail, vous travaillez aussi, vous me disiez, en collaboration avec tous ces artistes. C'est à l'air d'être aussi très important pour vous, le travail collaboratif, réunir des artistes autour de vous dans un projet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la distribution et puis la manière avec laquelle vous avez travaillé pour fédérer cette équipe?
Oui. Donc, d'abord, ce que je fais, c'est vraiment de choisir les morceaux musicaux que j'aimerais bien utiliser et de faire une adaptation du texte. Enfin, adaptation, c'est beaucoup dit. Je fais une traduction en néerlandais, mm-hmm. qui est ma langue maternelle. Et puis, à ce moment-là, il est clair pour moi quel personnage que j'ai besoin absolument. Mm-hmm. Et voilà, pour cette opéra-ci, il y a Masaniello, bien sûr, qui est et bien chanté et bien joué, donc chanté par un ténor de l'Académie de la Monnaie, mm-hmm. c'est Timothy Vreeser, un jeune chanteur, un jeune ténor, très très bien d'ailleurs, et il sera joué par un comédien romain, Jérôme de Falloise, pardon, du Raoul Collectif.
Oui, c'est ça. Donc, vous travaillez aussi avec le Raoul Collectif qu'on connaît bien ici. Je pense qu'ils sont venus plusieurs fois, un collectif théâtral et musical. Et donc, ils font partie de l'aventure aussi.
Absolument. Et en fait, pour la muette même, qui, comme vous avez dit, normalement dans l'opéra est interprétée par une danseuse, mm-hmm. moi, j'ai choisi de donner ce rôle à l'accordéoniste.
Ah oui, qui a également réalisé les arrangements musicaux, hein, si j'ai bien vu.
Voilà. Et donc c'est elle qui avec sa musique, avec son accordéon, interprète, donne voix mm-hmm. à la muette de Portici, donc la sœur de Masaniello. Mm-hmm. Et puis il y a encore Pietro qui est, disons, le pêcheur un peu plus, non pas un peu, mais beaucoup plus fanatique que Masaniello. Mm-hmm. Et il y a aussi deux personnages espagnols qui sont importants. C'est le fils du vice-roi,
qui a déshonoré Fenella, c'est ça, hein?
Oui. Et en fait, c'est ce fait qui est le trigger pour Masaniello, de vraiment, c'est une émotion qui est beaucoup plus forte que lui-même, c'est ça qui met le feu
dans la famille.
Dans la révolte, quoi.
Et alors, vous parliez de l'Académie, donc la MM Academy, qui est en fait une sorte d'opéra studio, donc c'est l'école de l'opéra où des chanteurs, des jeunes chanteurs en fin de parcours du conservatoire ou qui sont sortis du conservatoire apprennent la vraie vie au sein d'une maison d'opéra. Donc, et je pense que vous-même, vous êtes professeur dans plusieurs conservatoires, notamment en Belgique, où vous êtes aussi conférencière. Est-ce que cette dimension pédagogique est présente dans vos spectacles?
On dit que ça a une qualité éducative, mm-hmm. oui. Moi, c'est plutôt la recherche qui m'intéresse. C'est pas seulement vraiment une question éducative, mais c'est plutôt, j'aime bien partager avec le public ce moment de recherche, en fait, ce qui est donc le public est témoin comment nous, les artistes, cherchent notre chemin dans cette œuvre, quoi. Et en fait, c'est
un peu comme un making-of, presque.
Absolument. Mm-hmm. Et en fait, les comédiens et les chanteurs ont la partition, ont le script dans la main, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est pas quelque chose qui est répété pendant 6-8 semaines. On s'est vu 3-5 jours. Et c'est tout, quoi.
Donc, ça veut dire qu'on assiste presque à un processus de création en permanente évolution. Chaque fois qu'il y aura une représentation,
absolument.
Ça aura continué à évoluer.
Absolument.
Donc, on est un peu les témoins du travail.
Oui, absolument. Oui.
Écoutez,
Et donc, oui.
Je vous ai coupé. Parce que comme je ne vous vois pas, c'est parfois pas évident. Pour
oui.
Dites-moi.
Je comprends. Oui. Non, mais comme moi aussi, je suis chanteuse d'opéra, en fait, j'ai vraiment en fait une relation amour-haine, on peut dire, avec l'opéra, quoi. J'aime bien la musique, j'aime bien la musique qui parfois le livret est très très simple,
oui. un peu basique et les personnages sont pas très fouillés,
banal, voilà, banal, mais alors dès qu'on
prend le temps d'un peu approfondir, on voit toute la subtilité
oui,
littéraire.
Oui, et faire la transition à la musique, tout d'un coup, ça reçoit une
autre
profondeur.
Dimension. Oui.
Voilà, une autre dimension.
Écoutez, ça donnera,
oui,
ça donne envie
fait.
Parce que on se rend compte qu'on va assister à une sorte de vraie création.
Exactement.
Et donc, je pense que c'est vraiment tout public. Hein. J'ai vu qu'il y avait des représentations scolaires également.
Oui.
Et je comprends maintenant avec votre démarche d'inviter le public à rentrer dans la fabrication presque d'un spectacle. On comprend tout à fait la démarche. Donc, je rappelle les dates. Donc, il y a des représentations effectivement en néerlandais et en français. Donc un spectacle bilingue avec deux distributions. Ça a lieu du 7 au 10 novembre, pas dans la grande salle de la Monnaie, mais dans la salle Fioco qui est dans les ateliers de la Monnaie, derrière le théâtre de la Monnaie. Et évidemment, toutes les informations sont disponibles sur le site lamonnaiedemunt.be. Judith Windvogel, merci beaucoup pour votre présence et pour toutes vos explications.
Et on va écouter un peu de musique.
Et on va écouter absolument un peu de musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme extrait?
J'ai extrait en fait le moment, c'est le début du quatrième acte, c'est après le combat et en fait il y a Fenella qui explique, ça commence avec l'orchestre et c'est à ce moment-là que Fenella explique à Masaniello, écoute, il y a des atrocités j'ai vu des atrocités, j'ai vu comment les gens se sont tués l'un et les autres, et donc explique tout ça. Et il y a Masaniello qui dit, oui, je sais, ma sœur, c'est
effroyable. Et donc là, ce sera donc l'accordéon qui donnera voix à la muette. C'est un très beau symbole.
C'est tout à fait ça.
Et on écoute ça. Merci beaucoup. Et donc, in bocca al lupo pour demain, puisque c'est la première. Et on viendra vous voir.
Crepi e lupo.
Oui.
Crepi e lupo. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir. Fais donc causer ta douleur. J'ai voulu, mais en vain, mettre en terre mon carnage. Des forces en feu, des bords de palais, des enfants étouffés par leur mère, des frères frappés par leur frère. Hélas, j'ai vu tous ces forfaits, mais tu le sais, je n'en suis pas coupable. Viens dans mes bras, viens
Et voilà, une partie de ce qu'on apprend à l'école. Mais j'avoue que je connaissais le nom de l'opéra, mais pas du tout l'auteur. Enfin, je n'avais pas du tout retenu. Donc, c'est un opéra de...
Alors, là, tu me prends, c'est Daniel François Esprit Aubert.
Ah oui.
Il y en a trois, tu vois.
Il fallait bien ça.
Oui, il fallait bien ça.
Et je ne suis pas à l'abri d'avoir alterné l'ordre, donc il faudra vérifier.
Et on passe à Maria Grazia Tenez, excuse-moi pour... Voilà, pour ces merveilleux concerts au Musée des instruments de musique, j'ai eu l'occasion d'assister plusieurs fois. Le lieu est magique.
Le lieu est magique, tout
voilà.
à fait.
C'est une belle coopération qu'on a depuis 2021 avec le MIM. Donc, on a vraiment une très belle coopération. Moi, en tant que présidente d'MG Concerts, et Christophe Delporte, en tant que directeur artistique de CPE Festival. On a organisé déjà, c'est la troisième saison de notre série au MIM. Tout se passe parfaitement bien avec le MIM. On a une magnifique coopération avec Madame Anneline Verbeek, que je veux remercier ici parce que avec elle, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, on fait cette série. Et je voudrais parler surtout des deux prochains concerts. Donc, la série continuera jusqu'en avril. Et il y a de magnifiques musiciens. Notre premier critère, c'est évidemment la plus haute qualité des artistes. Et donc, je voudrais en particulier attirer l'attention des concerts avant la fin de l'année, qui seront le 19 novembre à midi avec le Zemlinsky Quartet, qui est un quatuor tchèque absolument extraordinaire et qui vont jouer évidemment deux quatuors, deux pièces de musique absolument extraordinaires. Évidemment, l'un des deux sera le quatuor américain de Antonin Dvorak. Et les deuxièmes.
Quand vous dites évidemment, c'est évidemment pour...
Parce qu'ils sont tchèques.
Ah, d'accord.
Oui. Ça s'imposait.
Parce que voilà, le compositeur tchèque et donc le quatuor Zemlinsky, oui. qui est un quatuor qui joue ensemble depuis 20 ans presque.
On peut rappeler les instruments?
Bah oui, c'est le quatuor classique, donc c'est les deux violons, un alto et un violoncelle.
Magnifique. Donc, quatre jeunes hommes. Enfin, jeunes, je ne sais pas s'ils jouent depuis 20 ans. C'est... Oui.
Ils jouent depuis 20 ans. Donc,
confirmé.
Oui.
Les artistes sont éternellement jeunes, toujours. Sans voilà. âge.
Voilà. Alors, ce qui est vraiment particulier, c'est l'endroit. Alors, le dimanche à midi, c'est vrai que c'est magnifique parce qu'après, on peut aller se promener en ville. On est entre le bas et le haut de la ville. Et donc, tout est possible après. C'est assez intimiste. La salle a une très bonne acoustique, mais on est très, très proche des musiciens. Après, on peut aller leur parler. Enfin, c'est quelque chose de très, très chaleureux comme atmosphère.
Oui, cette année, on a aussi développé cette idée d'avoir un drink à la fin du concert qui, en fait, sert à rencontrer les artistes. Et donc, de terminer avec un moment de convivialité. Et c'est toujours très intéressant d'échanger quelques mots avec les artistes.
Et les artistes aussi, ça doit leur plaire quand même.
Absolument, absolument.
Oui. Très sympathique.
J'aime beaucoup ça.
Oui. Voilà. Et puis ensuite, alors, on aura en décembre, puisque c'est à peu près une fois par mois.
Et c'est à peu près une fois par mois, oui. Donc en décembre, il y aura là aussi un musicien absolument extraordinaire. J'attire vraiment l'attention sur Francesco Corti, qui est un claveciniste et chef d'orchestre. Et qui est pratiquement le chef d'orchestre invité le plus par l'ensemble Pomodoro, qui est l'ensemble baroque peut-être le plus connu un peu partout dans le monde. Et il jouera sur un clavecin, ça c'est très intéressant, un clavecin Anselme qui est dans les mimes. Donc il a choisi le clavecin,
son instrument
qui est dans la collection.
D'ailleurs, donc, je voulais dire que quand on assiste à un concert, on est dans cette salle qui est entourée de une quinzaine d'anciens pianos, clavecins, etc. Oui. Et il y a une petite frustration de ne pas savoir ce que c'est. Il n'y a même pas un petit panneau, dire l'année, expliquer un petit peu. Moi, j'aimerais bien avoir une petite visite guidée.
Mais ça s'organise. C'est une magnifique idée.
Parce qu'on est entouré de tous ces... Ils sont magnifiques, ces instruments. Oui. Et on sent bien qu'il y a une histoire, une évolution. Mais on n'a pas l'occasion de... Voilà, de savoir.
Ça peut se faire.
Voilà, si on peut venir un quart d'heure avant et puis que quelqu'un nous explique un peu.
Très bonne idée.
Très bonne idée. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on utilise un instrument. La troisième, en fait. On a utilisé aussi l'utéal, qui est le seul exemple au monde de cet instrument, qui est dans les mimes, et c'est le seul unique. Et on a utilisé aussi un pianoforte Pleyel, qui était joué par un forte pianiste italien aussi, Costantino Mastropremiano, la saison passée. Et cette année, donc, c'est Francesco Corti, et ceux qui
connaissent un petit peu même de la musique baroque, c'est qui et c'est vraiment un point de diamant.
Et puis même si on ne connaît pas, moi on vous fait confiance. Moi je vous connais,
voilà,
vous.
Oui.
Et il y a un moment où on doit faire confiance. C'est un peu comme les directeurs de théâtre. Bon, il y a des créations, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Mais il faut faire confiance, voilà.
Merci.
Et donc on vous fait confiance. Et pour réserver, comment
la belle Maria Grazia.
Oui, en plus. Voilà.
Alors pour réserver, il faut aller donc sur le site du CPE Festival. Il y a un libellé qui s'appelle CPE MIM. Et là, pour chaque concert, il y a la possibilité de réserver sur Ticketmaster. Et sinon, on peut aussi se présenter à la porte.
Ah oui, c'est ça.
Une chose peut-être intéressante de savoir, c'est que si on achète un billet du musée, donc pour visiter le musée,
oui,
alors les concerts aura un ticket seulement de 5 euros.
Ah, d'accord. Voilà, donc c'est l'occasion de visiter le musée.
Pour, voilà, pour les seniors et évidemment.
Alors
pour
qu'est-ce
les
qu'on
étudiants
peut voir dans ce musée?
Dans ce musée, il y a toute l'histoire de la musique. On parle des instruments. Moi, je ne suis pas un expert du musée, je ne travaille pas dans le musée, mais je l'ai visité et donc c'est vraiment absolument fascinant. On découvre des instruments qu'on ne savait même pas qu'ils existaient et on part vraiment de l'aube du temps pour arriver jusqu'à nos temps. Et c'est extrêmement fascinant de voir combien d'instruments, il y a des instruments qu'on ne s'imaginerait jamais, des formes les plus extraordinaires.
Magnifique, ça donne envie, Zedadi?
Oui. Oh oui, c'est super, ça a l'air magnifique.
Puis c'est le dimanche midi, donc voilà, on peut faire une petite balade dominicale.
C'est pas loin.
Donc je vais faire le tour.
On est à Mont des Arts, donc
c'est un endroit magnifique.
On vient au concert. Le concert, c'est à peu près 50 minutes, maximum une heure. Oui. Après, on a un drink, toujours.
Un petit apéro.
Et
le bâtiment est très beau, c'est l'Old England, qui est un magnifique bâtiment à nouveau.
Malheureusement, la terrasse est fermée pour le moment.
Oui,
il y a tout ce qu'il faut. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Alors, vous avez choisi deux musiques, mais là, il va falloir nous en choisir une des deux. Qu'est-ce qu'on commence?
Alors, à ce moment-là, je pense que... c'est difficile maintenant de choisir.
Alors, c'est Henri qui va choisir.
Voilà, alors, c'est Henri
qui va choisir au hasard.
Qui choisit?
Bach.
Bon choix.
Alors, oui. Alors, c'est la suite française de Bach, jouée par Francesco Corti. C'est cela.
Voilà. C'est quand même un peu répétitif, ou je rêve?
Non, non, c'est plein de subtilité.
Ah voilà, c'est ça, je ne suis pas assez subtile en clavecin.
Non, 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 c'est parce que tu n'écoutais pas bien, mais je t'assure, voilà, en écoutant tranquillement, tu vas.
Zidane, elle aime la musique aussi.
Oui, oui, moi j'adore la musique. Oui.
On a...
Classique et française.
Voilà, et puis moi j'ai déjà vu un spectacle chanté.
Ah ben.
Exceptionnellement, peut-être, je ne sais pas. Il n'a pas été joué si souvent que ça, le spectacle chanté.
J'ai qu'un seul spectacle qui s'appelle Zida Diva, qui est un spectacle de chansons. Mais voilà, mais sinon, dans tous mes spectacles, il y a des chansons et je finis souvent certains morceaux de sketch ou de texte en chanson.
En chanson.
Voilà.
Et le public aussi, d'ailleurs.
Oui, le public ça aussi, le public. C'est obligatoire.
Ah, d'accord. Bon,
il faut chauffer sa voix avant de venir. Alors...
Oui, éventuellement, mais c'est, ou voilà, ça fait partie. L'humour est quelque chose, finalement, de très musical et qui fonctionne très, très bien.
Il y a un rythme,
avec
clairement.
Avec la musique, et donc, du coup, c'est bien de chanter. Et bon, voilà.
Alors, vous venez pour plein de choses, mais notamment vos 30 ans, c'est incroyable. Bon, oui, en général, une femme ne dit pas son âge, mais si ça fait 30 ans que vous jouez, c'est...
En fait, ça fait même plus en scène, je dirais que ça fait 46 ans, parce que j'ai commencé à 9 ans. Mais là, c'est mes 30 ans de scène comme humoriste. Et c'est vrai que mon tout premier spectacle personnel, écrit par moi, c'était La petite comique de la famille en février 1993. Voilà, et puis il se fait que tout à coup, j'ai regardé la jeune âge, je me suis dit, ah ben ça fait 30 ans. Et donc voilà.
Ce qui est quand même vraiment rare.
Bon anniversaire.
C'est vrai, c'est vraiment rare, des artistes qui jouent depuis 30 ans, vraiment bravo.
Moi, je crois qu'il y en a beaucoup, mais peut-être qu'on.
Des acteurs, oui,
pas.
Des humoristes.
Ouais. Finalement, je réfléchis, moi, ça, l'année prochaine, ça fera 30 ans aussi.
Oh. Ouais.
Mince alors.
Vous pouvez ensemble. Oui. Et qu'est-ce qui a évolué dans le monde de l'humour depuis 30 ans?
Évoluer, je ne sais pas, parce que l'humour est aussi très idiomatique et donc fonctionne avec son temps, ça c'est sûr. Après, évolution, j'en sais rien. Il y a beaucoup, beaucoup de stand-up. Ça, oui. On le sait, il y a beaucoup de comedy clubs qui s'ouvrent actuellement. Et ça, je dirais que c'est dû en fait à une mode. C'est un petit peu Jamel Debbouze qui a amené ça. Donc, c'est un petit peu.
Des États-Unis aussi, non ?
Des États-Unis, mais je pense qu'en France, ça a vraiment été fort marqué par Jamel Debbouze, donc par le côté un petit peu. Un humour un peu, enfin, un art un peu urbain, rural. Mm-hmm. Et donc, c'est un petit peu dire, voilà, moi aussi, j'ai une histoire à raconter.
Exactement.
Et je veux la raconter. Et alors, je dirais qu'on a peut-être un peu oublié des gens comme ma génération, Eli Kaku.
Non, on n'a pas oublié Eli Kaku, non.
Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Eli Kaku.
Ah, oui.
Eli Kaku, ou même Coluche. Coluche est connu dans les Restos du Cœur, mais plus forcément pour le contenu de ses sketchs, des proches, etc. Beaucoup de jeunes de cette génération-ci ne connaissent pas. Et ça, c'est à cause d'Internet. C'est-à-dire que depuis quelques années, Internet, on ne prend plus un dictionnaire. C'est vrai que si on a un problème avec un mot, on va regarder, on regarde Wikipédia. Donc le livre, entre guillemets, a disparu. Et en même temps, une tradition orale s'est un tout petit peu perdue. Autant avant, il y avait quand même des grands maîtres comme Raymond Devos qui vraiment faisait des carrières jusqu'au moment où il meurt. Eh bien, aujourd'hui, on a tendance à penser que l'humour n'est réservé qu'aux jeunes, entre guillemets, émergents, et plus vraiment pour les plus vieux. Donc voilà. Et donc ça, c'est quand même Internet qui a créé cette amnésie, ce côté un peu Alzheimer. Et je suis contente que certaines émissions de télévision ressortent un petit peu des émissions en reprenant les grands comiques et les grands noms.
Les classiques, en fait.
Les classiques, oui.
Est-ce qu'à ce jour aussi, les humoristes, pas stand-upers, donc ceux qui jouent des personnages, n'ont pas aussi tendance et envie de faire du cinéma, de faire autre chose en plus, donc, de la scène?
Le cinéma, ça, c'est toujours... Tout le monde a envie de faire du cinéma. Je ne connais pas de comédiens ou d'humoristes qui n'ont pas envie de faire du cinéma. Mais par contre, dans ce qui est du personnage, il y en a quand même de moins en moins. Ce qui est dommage, parce que même, par exemple, à Montreux, les personnages plaisent toujours beaucoup. Je pense à Paul Mirabel. Ça, il s'est vraiment fait un nom. Et finalement, les gens aiment bien les personnages. Et les producteurs sont parfois un peu frileux. Donc, on est plus dans une génération... parfois, on confond un peu humour et people. Mais je dirais qu'à ce niveau-là, comme dans l'humour, les choses n'ont pas changé. Les producteurs sont toujours pas forcément les plus malins. Et les humoristes, ils continuent toujours à faire ce qu'ils aiment avec passion.
C'est ça.
Ça n'a pas bougé.
Alors, il y a Pablo Andrés qui fait plein de personnages.
Pablo fait beaucoup de personnages. Et là, son dernier spectacle, il fait un mélange un peu des deux. C'est vrai que Pablo, il s'est fait connaître avec l'agent Vrag et tout ça. Moi, je fais des personnages. Oui. Mais... d'une manière générale, dans les comedy clubs, la tendance est plus au stand-up qu'au personnage.
Absolument.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces 30 ans? Donc, il y a en tout cas, bon, d'abord, votre carrière continue encore au moins 30 ans, j'espère, bah, avec tous ces spectacles.
Inch'Allah, comme on dit chez nous.
Voilà. Et puis, il y a quelque chose de particulier le 16 novembre.
Alors, le 16 novembre, bah, en fait, le Théâtre des Galeries m'avait demandé si je ne voulais pas, parce que, voilà, ils avaient envie aussi de faire un peu des accueils différents, si je ne voulais pas venir jouer un spectacle. Puis, j'ai dit spontanément, bah, Mamie Georgette en mode stand-up, parce que c'est un personnage très bruxellois, un peu Yiddish woman. Et puis, il y a, avec les Galeries de la Reine, avec le souvenir de Bosman et Coppola, Madame Chapeau, et tout ça, Mademoiselle Belemont, j'avais pensé à ce personnage-là. Et puis, en regardant l'agenda, je me suis dit, mais en fait, ça fait 30 ans. Et donc, du coup, c'est devenu un peu les 30 ans de scène. Donc, on va présenter Mamie Georgette en mode stand-up, mais dans une version revisitée, retravaillée. Il y aura des maminettes, un petit orchestre. Enfin, il y aura beaucoup de choses. Ce sera une belle soirée, un peu soirée gala. Et en même temps, l'occasion avec le public de fêter, de
est-ce
marquer.
Est-ce qu'il y aura des guests?
Mais ça, on ne vous dit pas. Vous n'avez qu'à venir, quoi.
Il y a une surprise. Et c'est un one-shot, alors. Donc, c'est tout ça pour... Un soir.
Oui, alors il y avait l'idée, bon, est-ce qu'on fait un spectacle où on reprend les meilleurs sketchs, où on fait une tournée, etc.
Best-of.
Best-of, j'ai pas envie de ça. D'accord. Ça, vraiment pas. Il y a 10 ans, on avait fait au Cirque Royal une soirée aussi avec orchestre, avec un peu un panel de mes meilleurs sketchs, mais c'était vraiment très sympa, mais c'était aussi un one-shot. Je trouve que ben, c'est comme dans la vie, un anniversaire, c'est un soir.
Voilà,
et donc, j'avais envie que ce soit un soir. Par contre, pour les 30 ans, il y a aussi d'autres spectacles qui sont présentés. J'avais envie de faire un hommage à la fois à ma maman avec Mamie Georgette en mode stand-up et puis un hommage à mon papa avec Retour en Algérie que je joue en fait à Mons et à Namur. Et j'ai repris aussi La Rentrée d'Arlette. Donc, en fait, ce semestre-ci, on a mis un coup d'éclairage sur 3 spectacles qui sont les spectacles qui ont le plus marché à l'international.
Et ce sont 3 spectacles, justement. Alors, le stand-up, on parle de soi, mais là, dans vos spectacles, vous parlez de vous aussi, même si c'est indirect, c'est quand même lié à votre histoire, chaque fois.
Alors, celui qui est le plus lié à mon histoire, c'est Retour en Algérie. Oui. Ça, c'est le plus autobiographique. Ou d'ailleurs, pour une fois, dans ce spectacle, je me présente en moi, en tant que Zidani et sans personnage, avec d'autres personnages aussi, bien sûr. Sinon, c'est chaque fois des morceaux de vie, des tranches de vie. Bien entendu, un humoriste, il est toujours dedans, puisque j'écris aussi ou je co-écris. Et de toute façon, c'est mon œil, donc c'est mon observation. Parce que ce qui intéresse le public quand il vient voir un humoriste, c'est la manière dont il raconte son environnement et le monde dans lequel il est. C'est ce que faisait déjà Montesquieu, Voltaire ou Rabelais.
C'est ce qui le différencie des autres, en fait.
C'est ce qui donne
ça. Qui vous fait que vous êtes unique, en fait.
Oui, et que parfois, des gens, à la fin, par exemple, dans La Rentrée d'Arlette, il y a un personnage de musique, une espèce de folle avec un pull jaune. Et c'est déjà arrivé qu'une dame vienne me dire « Est-ce que votre professeur de musique ne vient pas de Verviers ?»
Je le connais, oui, c'est ça.
Ça, c'est super quand on a ce type d'échange ou ce type de rencontre. Quand les gens me disent « Ah voilà, je connais aussi quelqu'un comme ça », ou repartent à la maison avec des petites phrases, des petits morceaux. Dans La Rentrée d'Arlette, il y a « Fatigué ».
Fatigué.
Il y a Hélène. Enfin, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui reviennent. Et ça, c'est sympa quand les gens embarquent chez eux à la maison.
Et puis alors, il faut dire que vos spectacles sont de vrais spectacles, puisque il y a un décor, il y a parfois des vidéos, il y a, comme vous avez dit, des chansons. Enfin, c'est un spectacle, quoi.
C'est-à-dire que c'est souvent une mise en abîme, donc il y a une thématique. Et dans la thématique, donc, on essaie de travailler le tout. L'image, chez moi, est toujours quelque chose de très important. Donc, il y a souvent des vidéos qui complètent... parfois par des publicités ou par d'autres histoires qui continuent un peu l'histoire dans l'histoire. Et puis parfois aussi parce que la vidéo me permet aussi d'aller me changer et de changer de personnage. Mais en même temps, du coup, on peut continuer l'histoire. Ce qui fait que les gens ont l'impression de sortir avec un spectacle, parfois une histoire vraiment complète.
Absolument. Donc c'est quand même une histoire qui dure c'est quoi, une heure et quart.
À une heure, ça c'est vraiment une démo pour moi.
C'est ça.
Minimum 1h20. Voilà. Minimum.
Voilà. Alors on peut dire, entre guillemets, on en a pour son argent. Il y a vraiment de tout et c'est des vrais spectacles. Je ne sais pas si Dominique a déjà vu Zidani sur scène.
Non.
En 30 ans, tu es passé à côté. Ça, c'est quand même
souvent
incroyable.
Quand on est soi-même sur scène, on voit pas les autres, c'est embêtant. C'est vrai. Mais donc il faut. Voilà.
C'est pas bien. Alors il y a quelqu'un qui a une question. C'est à organiser,
absolument. Tu vois, elle me prend en défaut, c'est pas bien non plus.
Je pose la question, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a encore des gens à conquérir, c'est quand même merveilleux.
Ah oui, toujours.
Mais ce qui est gai, c'est que...
Est-ce que Zidani est venu voir
C'est vrai, est-ce que Zidani est déjà venu voir un spectacle de Dominique Corbiot?
J'ai déjà entendu.
Voilà.
Mais
c'est très, très visuel aussi, c'est très, très beau.
Oui, c'est très beau.
Et donc je disais que, comme je fais souvent des reprises, parfois les gens viennent me voir à tel spectacle, Et puis ils ont un coup de cœur et puis ils ont envie de voir les autres. Et donc c'est comme ça que souvent je reprends les spectacles. Et puis c'est aussi vaste communicant parce qu'un spectacle nouveau, enrichi, un plus ancien, c'est un peu comme une grande œuvre finalement, juste avec des thématiques différentes.
Vous pourriez mettre le casque.
Il y a quelqu'un qui a une question à poser.
Mazid, je suis très ému de te parler aujourd'hui sur l'antenne de Judaïka. Je voulais te dire que je suis épaté, parce que d'année en année, tu te bonifies. Non seulement tu te bonifies, mais tu te rajeunis. Tu es un peu la Benjamin Button des artistes. Tu vas finir en bébé, dans les bras de la personne qui t'aime. Ça doit être ça. Et puis, ce qui m'impressionne, Mazid, c'est que comme tu arrives à te changer, à te déguiser, je pense que tu aurais pu dans une autre vie être serial killer. Ouais. Eh ben tout s'explique puisque sur scène tu tues. Voilà, on a à peu près le même âge. La vie, ce sont des cycles et j'ai l'impression que ça y est. Après 30 ans de métier, ça explose chez toi. Eh ben tu sais quoi, tu me motives parce que moi après 30 ans de métier, j'ai l'impression de recommencer tous les jours. Voilà. Et il vaut mieux recommencer avec des amis comme toi parce qu'on s'aime, on s'apprécie, on s'adore. Et je voulais te dire bon anniversaire, Mazel Tov, tu es énorme. Et je te dis, tu tues et tu tueras sur scène. Gros bisous.
Merci Riri.
Alors c'était qui?
C'était Richard Huber.
Voilà.
Il n'y a que lui qui m'appelle Mazid.
Ah d'accord.
Mais je n'ai pas reconnu sa voix tout de suite.
Non,
mais il a plusieurs voix.
Quand il fait le sérieux, ce n'est pas pareil.
C'est sa petite voix, son rire. Et voilà, Richard Huber, mais c'est vrai qu'on a appris, on s'est rencontrés, on a appris à se connaître, on s'apprécie beaucoup. On a même fait une petite publicité ensemble et on s'est dit qu'on va continuer à se faire un petit duo. Moi, dans Mamie Georgette et lui avec son Gonzague. Et voilà, et c'est vrai que c'est un artiste voilà, qui dure, qui reste sur la durée parce que c'est ça qui est très important, je pense, quand on travaille un art. Comme disait le grand Baudelaire, bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. C'est qu'en fait, il faut beaucoup travailler.
Exactement.
Et c'est vraiment, l'art n'est vraiment pas un métier de jeune. Quand on est jeune, on ne connaît rien, mais on a cette volonté et cette insolence et parfois cette inconscience de vouloir exister, de montrer, de se dire qu'on va tout faire. Et plus on avance, plus on se rend compte de tout ce qu'on a à apprendre et plus on repousse l'heure fatidique de la mort pour continuer en espérant être très vieux et mourir sur scène.
C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre comme musique dans ce côté mourir sur scène?
Alors, j'ai choisi une chanson « En sang » de Pierre Rapsat, parce que je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a ce moment de paix et de cette envie d'être en sang. Je crois que ça, c'est le mot actuel qui a envie de tous nous réunir. Le spectacle, c'est « Ensemble ». Et puis Pierre Rapsat, ça fait partie de ces très, très grands artistes belges qu'on connaît plus après sa mort que pendant son vivant. Et donc, je suis contente de le passer en radio aujourd'hui.
Et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions. Cet étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre ensemble, ensemble, même si l'on est. Savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Et ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le
Jacôme de Belsize.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Donc, vous êtes encore à Paris pour le moment.
Oui.
Et on vous reçoit pour... Alors, moi, c'est la troisième pièce que je vais voir de vous, parce que celle-là, Mondial Placard, est-ce qu'elle s'est déjà jouée, en fait?
Oui, alors, c'est le tout début de la tournée. Elle a été créée fin octobre. Donc, ça sera la neuvième représentation du spectacle.
C'est ça.
Et vous... quand on sera à Bruxelles, oui, ça sera peut-être la quinzième.
Voilà. Donc, vous venez un seul jour. Donc, encore une fois, il faut se dépêcher, il faut réserver très vite. Donc, au Centre culturel du Club 25, c'est un samedi soir, donc pas d'excuses, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous viendrez à Bruxelles ou pas.
Oui, oui, bien sûr.
Ah, super. Alors, les pièces que j'ai vues de vous et celle-ci aussi, je pense, parlent de la bonne humeur qui se passe dans les entreprises pour le moment. De quoi parle donc Mondial Placard?
Alors, Mondial Placard, en fait, c'est je vous fais le pitch très rapidement. C'est une entreprise un peu à l'ancienne avec un PDG fondateur qui se dit qu'il faut rentrer dans la modernité. Et pour ça, il décide de nommer une femme à un poste de directrice. Et ça va créer un chamboulement. C'est très, très mal vécu par une partie des cadres qui se sentent mis en danger. Et notamment celui qui pensait avoir le poste, qui se dit, alors là, pour réussir, il faut être une femme. Et donc, il décide de revenir au bureau travesti en femme pour montrer à tout le monde qu'en tant que femme, il va être promu. Ça se passe pas exactement comme prévu. Et en parallèle, en fait, la femme qui est nommée à ce poste de directrice se prend tellement de peau de banane des autres cadres qu'elle décide, en accord avec le PDG, de revenir au bureau travesti en homme pour montrer à tout le monde qu'en tant qu'homme, ils seront tous derrière elle. Ce qui ne se passe pas non plus exactement comme prévu. Voilà. Et donc, à partir du double travestissement, il y a toute une comédie qui se met en place. Il se trouve qu'en plus, il y a une entreprise qui vend des placards, donc j'ai repris vraiment les codes du vaudeville. Donc, c'est à la fois une pièce sur un vrai sujet contemporain de société qui est la question de l'égalité femmes-hommes en entreprise, avec une forme très très comédie et complètement assumée de ce point de vue-là.
Oui, vous choisissez à chaque fois des thèmes assez, assez forts et assez actuels pour en faire des comédies. Comme dans la première pièce que j'ai vue, c'était une DRH qui était aveugle et qui donc faisait passer des castings, mais c'est presque ça.
Entretiens d'embauche.
Des entretiens d'embauche, parce que je suis entourée d'artistes ici. Donc, on a Zidani, qui est une humoriste belge, mais qui fête ses 30 ans sur scène. Donc, très connue en Belgique. J'espère que vous viendrez un jour la voir. Et puis, Dominique Corbu, qui est un chanteur d'opéra, qui vient comme chroniqueur nous parler de musique. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu que vous aviez aussi fait des mises en scène d'opéra. Et donc, ça m'intéresse.
Oui, j'ai regardé Jeannot Buchet, entre autres, la Scala 17 à Rossini, tout ça.
Ouais.
Très intéressant.
Jeannot Buchet qu'on reprend à la Philharmonie de Berlin au mois de juin.
Magnifique. Et d'ailleurs, le double travestissement, ouais, c'est très baroque comme sujet aussi. Hein. Dans les opéras, souvent, dans les opéras baroques, il est souvent question de ça, le double travestissement.
Ah oui, mais moi, j'ai vraiment une culture classique et j'aime bien puiser dans des racines et tout en traitant des choses vraiment très contemporaines. Et c'est vrai que le double travestissement, on le retrouve dans tout l'opéra, bien sûr, mais on le retrouve chez Marivaux, on le retrouve chez Shakespeare. Enfin, c'est vraiment
des
recettes qui sont éprouvées. C'est vrai que c'est assez jouissif pour le public.
Écoutez, c'est quand même assez rare. Enfin, bravo, quoi. Je ne vais pas dire votre âge, mais vous n'êtes pas très vieux. Avec le nombre de pièces que vous avez donc écrites, mis en scène, plus des opéras, etc. Voilà, magnifique. Hein à quand le Molière, quand même, pour au moins une des œuvres. Et alors, vous vous entourez d'une équipe, je pense que vous faites jouer régulièrement des personnages qui reviennent, enfin des acteurs qui reviennent.
On peut peut-être notamment Éléonore Jonquet que vous avez vu dans tous les spectacles que j'ai joué à Bruxelles, donc Le Bonheur des uns l'année dernière et Soyez vous-même, je pense il y a 2 ans ou 3 ans.
Avec le Covid, il y a des années qui travaille
depuis 20 ans. Oui, voilà, exactement. On est un peu perdu. Benjamin Vangermé qui était aussi dans Médée, je sais pas si vous l'avez vu.
Non, mais je l'ai vu dans le troisième... Michael, je crois, Michael, ou non?
Oui, absolument. Ouais, ouais. Qui est un acteur génial, là, qui joue justement celui qui se travestit en femme, qui fait ça avec vraiment beaucoup de virtuosité, et 5 autres acteurs alors, avec qui c'est des premières collaborations. Jean Libert, qui est un grand acteur et qui est, c'est la première fois qu'il fait une vraie comédie, c'est un acteur qui a une vraie carrière lyrique, on l'a vu avec Mouawad, on l'a vu voilà, avec des grands metteurs en scène internationaux.
Ça veut dire qu'il y aura de la musique?
Alors, il y a toujours de la musique dans mes spectacles, mais là, en l'occurrence, non, quand je disais lyrique, c'était au sens théâtral du terme, pas musical. Et c'est un tragédien, et il joue un rôle de comédie, il est excellent en comédie. Donc Jean Albert, qui j'oublie, Gwenaëlle Couzigou, qui est une toute jeune comédienne, David Talbot, qui brille en ce moment dans une série qui passe en France, je sais pas si elle passe en Belgique, sur Tapis.
Vous savez, on a la télé française, on a tous les postes.
Sur Netflix, en tout cas, là, oui. La mini-série.
Oui, à la fois, je ne sais pas si c'est un film, c'est très moderne. Les Belges, mais
on est très contents que les Français ne captent pas la télévision belge. On est pour le moment, ça va.
Non, mais voilà, je ne sais pas si c'est un sujet qui passe la frontière, qui intéresse autre part qu'en France. Mais voilà, donc qui a un super rôle là-dedans, qui j'oublie, Clara Guipon, et je pense que j'ai dit tout le monde.
Gwenaëlle Couzigou.
Il y a 7 comédiens, 7, oui voilà, 7 comédiens sur scène. 7 Alors, comédiens, c'est une belle équipe.
Même si on ne les connaît pas tous, il est très rare de voir en Belgique des équipes de 7 comédiens. Hein, c'est quand même fameux. Hein,
c'est ouais. C'est du luxe. Ça.
Oui, c'est du luxe. Hein, c'est pas mal. Ça donne vraiment envie. Et bon, voilà, moi j'ai vu les deux précédentes pièces, je peux vous dire que c'est... et intelligent et drôle. Malheureusement, on doit se quitter, mais on est très, très contents donc, de vous voir le 25 novembre pour Mondial Placard, Coupe de Belsize. Merci, merci beaucoup. Et l'année prochaine pour la prochaine pièce, alors. Au revoir.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà. C'est une pointure. Hein.
Ouais,
c'est pas mal.
Et puis,
absolument. Quand on voit le parcours, et puis effectivement, il a toutes ses références du grand répertoire. Exactement. Qu'il injecte dans une vision contemporaine.
Et il a 40 ans. Hein,
oui.
Donc, avec tout
on
ce
a le
a
même
fait.
Âge. Ouais.
Alors, vite, il nous reste 2 minutes pour rappeler les petites choses. Donc, les 30 ans, c'est le 16 novembre.
16 novembre, et alors. D'autres dates aussi en Belgique, donc ça il faut aller sur mon site www.
Qui est très très bien fait, qui est mis à jour, ce qui est rare, voilà, franchement. Et alors Dominique Orbio qui veut nous parler d'un événement.
Oui, donc la Mieux de Portici du 7 au 10 novembre, ça c'est dit. Et aussi, il y aura les 60 ans, la commémoration des 60 ans des relations diplomatiques et culturelles entre la Corée et l'Union européenne. Et donc, pour célébrer cet événement, il y a une sorte de show mapping vidéo musical, soins lumière sur les arcades du cinquantenaire. Ce sera du 16 novembre au 22 novembre en boucle de 18h à 22h tous les soirs, avec le 16 un petit bonus, une cérémonie d'ouverture d'inauguration où je chanterai live à 19h en compagnie d'une grande diva coréenne, Sumi Jo, une grande soprano qui a été découverte par Karayan. Et donc on chantera en duo avec ce merveilleux spectacle projeté sur les arcades du cinquantenaire qui sont aussi un magnifique
un
décor tout à fait majestueux.
Voilà. Donc on va le 16, on va vite à 17h
et puis
à 19h et puis on court.
Ce sera retransmis en direct.
En tout cas, je ne sais pas si ce sera transmis en direct. En tout cas, ce sera vraiment visible en boucle pendant cinq jours. Voilà. Donc,
si
vous baladez du côté du
50. Il y aura une captation du spectacle du 16.
Non, on va faire une captation. D'accord. Pour nous, mais il n'y a pas de captation